RFI 23h, à Kiev 22h, à Paris 21h en temps universel. Cette manifestation ce jeudi à Kiev devant l'ambassade américaine face à la volonté de Donald Trump d'arriver à une paix rapide entre Kiev et Moscou. Les Ukrainiens demandent une paix juste et la libération des prisonniers de guerre. Les dirigeants européens ont acté ce jeudi un plan pour renforcer la défense du vieux continent. Hier, dans un discours, le président français a insisté sur la menace que représente la Russie, des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir Moscou. En Bosnie, la fuite en avant séparatiste du président de l'entité serbe. Il a signé des lois d'interdiction de la justice et de la police fédérale sur le territoire qu'il contrôle. Explication à suivre. Et puis la banquise a atteint un minimum historique en février. En cause, le réchauffement climatique et des températures mondiales toujours au plus haut. Des délégations ukrainiennes et américaines doivent se rencontrer mardi en Arabie Saoudite, tentative d'apaiser la situation et de réparer les liens avec l'administration de Donald Trump en Ukraine. Les actes et les propos du président américain ont provoqué la sidération. Ce jeudi, un rassemblement était organisé pour réclamer que les prisonniers de guerre ukrainiens soient libérés avant toute négociation. Reportage de Cerise Sudrilutu.
La Russie tue ou libérer nos prisonniers, les 200 personnes qui se sont donné rendez-vous devant l'ambassade des États-Unis à Kiev ce jeudi matin ont pris soin de rédiger leur pancarte en anglais. Beaucoup brandissent aussi la photo de leur frère, ami ou fils, disparu depuis des mois. Maria, 35 ans, ne peut retenir son émotion. La jeune femme a fait le déplacement depuis Lviv à 800 km de là pour être présente avec sa mère.
Mon frère est soldat. Il a disparu en décembre 2023, il était à Marinka. Maintenant, ce territoire est occupé et nous ne savons rien de lui. S'ils veulent un accord, qu'ils organisent au moins un échange de prisonniers.
Natalia Epifanova, à la tête de l'association Libérer nos soldats, qui a organisé la manifestation, tente de rester calme malgré sa colère.
Donald Trump veut la paix, nous aussi. Mais sans les retours des prisonniers de guerre et des personnes disparues, cette paix n'en est pas une.
D'autant que si certains parlent de paix, la Russie continue, elle, à attaquer. Dans la nuit, 4 personnes sont mortes en Ukraine suite à des frappes russes. Cerise Sudrilutu, Kiev, RFI.
Donald Trump remet une nouvelle fois en cause l'engagement américain au sein de l'OTAN, estimant que les États-Unis ne devraient pas venir au secours des pays qui ne dépensent pas assez pour leur armée. Déclaration qui intervient alors que les dirigeants européens ont donné leur feu vert pour renforcer la défense européenne. Ils étaient réunis en sommet extraordinaire ce jeudi à Bruxelles. Les chefs d'État et de gouvernement s'accordent donc sur la nécessité d'accroître les capacités de défense du vieux continent. Le président français Emmanuel Macron voit ses idées confortées, même si les dirigeants européens ont accueilli avec prudence sa proposition d'élargir à l'Europe le parapluie nucléaire français. En Russie, en tout cas, le discours d'Emmanuel Macron hier soir a suscité une avalanche de réactions. Le chef de la diplomatie russe a notamment jugé que les propos du président français constituaient une menace pour la Russie. Sergueï Lavrov.
Bien sûr, c'est une menace pour la Russie. S'ils nous considèrent comme une menace, convoquent une réunion des chefs d'état-major des pays européens et de la Grande-Bretagne, dit qu'il faut se préparer à utiliser les armes nucléaires contre la Russie, bien sûr, c'est une menace. Contrairement à ses prédécesseurs qui voulaient aussi lutter contre la Russie, Napoléon, Hitler, Monsieur Macron n'agit pas très gracieusement, car eux ont dit directement « nous devons conquérir la Russie, nous devons la vaincre ». Lui veut apparemment la même chose, mais pour une raison quelconque, il dit « nous devons combattre la Russie pour qu'elle ne vainque pas la France, que la Russie crée des menaces pour la France et l'Europe ». Vous savez, Monsieur Macron déclare périodiquement avec beaucoup de fierté qu'il appellera certainement Poutine, lui parlera, il en a la possibilité, personne ne s'y oppose. Au contraire, le président souligne constamment son ouverture au contact avec tous ses collègues.
Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Dans la guerre commerciale entre les États-Unis et le Mexique, Donald Trump a de nouveau reculé ce jeudi, annonçant que l'immense majorité des produits mexicains ne sont plus concernés jusqu'au 2 avril, en tout cas par les taxes de 25% en vigueur depuis le début de la semaine. Il s'agit là du deuxième recul en moins de 24 heures de la part du président américain qui avait déjà accordé une pause d'un mois aux pièces automobiles et aux voitures sous la pression des constructeurs américains. Donald Trump qui a aussi annoncé un peu plus tard l'élargissement de l'exemption douanière à certains produits canadiens. En Bosnie, depuis la fin de la guerre en 1995, le pays est divisé en deux entités, la République serbe et la Fédération croato-bosniaque. Le président de l'entité serbe, Milorad Dodik, vient de signer l'interdiction de plusieurs institutions fédérales de son pays dans l'entité qu'il contrôle. Et cette décision pourrait représenter une menace pour l'intégrité de la Bosnie. Les explications de Laurent Rouy.
La fuite en avant séparatiste de Milorad Dodik, président de l'entité serbe de Bosnie, a franchi une nouvelle étape hier soir. Dodik a signé des lois d'interdiction de la justice et de la police fédérale bosniaque sur le territoire qu'il contrôle. Une décision qualifiée de coup d'État par son propre vice-président. Depuis le début de la crise, plusieurs politiciens serbes de Bosnie se désolidarisent de Milorad Dodik. Il y a 8 jours, Dodik était condamné à 1 an de prison et à 6 ans d'interdiction d'exercer la politique pour s'être opposé au tribunal constitutionnel de Bosnie. Depuis, il tente à marche forcée de couper les ponts entre l'entité fédérale serbe, la Republika Srpska, et la Bosnie. Au pouvoir depuis 18 ans, Dodik a toujours promu la sécession de la Republika Srpska, sans jamais oser franchir le pas. Mais il utilisait systématiquement ses pouvoirs pour bloquer le fonctionnement de l'État central. Depuis que sa condamnation lui a fermé toute porte de sortie, il pousse sa logique séparatiste aussi loin que possible. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
En Syrie, 16 membres des forces de sécurité ont été tués ce jeudi lors d'affrontements avec des partisans du président déchu Bachar al-Assad. Des affrontements les plus violents depuis la chute du dictateur. C'est ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme, une ONG indépendante basée au Royaume-Uni. Depuis quelques jours, des combats ont lieu dans la région de Latakié, bastion du clan Assad dans le nord-ouest du pays. La Turquie annonce que plus de 130 000 réfugiés syriens sont rentrés chez eux en 3 mois depuis la chute du régime de Bachar al-Assad. Près de 3 millions de Syriens avaient fui le pays vers la Turquie voisine pendant la guerre civile. Le début de l'année 2025 illustre un peu plus le réchauffement climatique. Les températures restent très élevées, pas de record, mais on n'en est pas très loin. Il y a eu aussi peu de banquises. Il n'y a jamais eu aussi peu de banquises cumulées sur le globe qu'au début du mois de février. Voilà ce qu'indiquent les mesures du programme européen Copernicus. Paul Inglaise.
Le mois de février est traditionnellement une période de moindre étendue de la banquise, pôle nord et pôle sud confondus. Mais cette année, elle est particulièrement réduite. D'un côté, l'Arctique n'a jamais été aussi peu recouvert de glace pour un mois de février, 8% en dessous de la moyenne. De notre côté, la banquise antarctique, sans battre des records, voit sa surface réduite de plus de 25% par rapport à sa moyenne saisonnière. Pourtant, El Niño, au pouvoir réchauffant sur la planète, a été remplacé par son contraire, la Niña. Mais ces phénomènes naturels ne sont pas décisifs, explique Jean-Baptiste Salé, océanographe au CNRS.
Il y a des effets sur les couvertures de banquise, mais qui sont assez indirects. Ce qui est en jeu, c'est vraiment le changement climatique tendanciel d'origine humaine.
Ces pertes de banquises ne sont pas sans conséquences.
La banquise est une surface blanche qui reflète les rayons du soleil en dehors de la planète. Quand il y a moins de banquise, en fait, il y a moins cet effet miroir de la banquise et donc on a plus de chaleur qui reste sur la planète. Il y a le changement du régime de la banquise, donc moins de formation ou plus de fonte qui va changer les caractéristiques de l'eau de mer et donc qui va avoir des effets sur la circulation océanique et aussi sur les habitats des écosystèmes.
Cela a aussi un impact sur certaines populations qui vivent dans la région arctique.
Précision signée Pauline Glaise du service environnement de RFI. Ce court message audio du pape diffusé ce soir par le Vatican d'une voix chevrotante, le souverain pontife a remercié les fidèles pour les prières pour son rétablissement. L'état de santé de François reste stable. Il n'a pas eu de nouvelle crise respiratoire ce jeudi, précise le Vatican. Mais les médecins ne sont toujours pas prononcés sur la durée de son hospitalisation. RFI 22h et bientôt 10 minutes à Paris, 21h10 en temps universel.